Jules Janin, Rosette. J'aime assez les romans, ils allègent la vie heureuse, ils sont le rêve éveillé. Mais parlez-moi des petites histoires d'autrefois, des romans de quelques pages, et non pas de ces inventions sans paix ni trêve qui exigent un mois de lecture. Il n'y a rien de plus triste, on s'y perd, on s'y vieillit. Que si, pour rajeunir son sujet, l'auteur se ferait un chemin sanglant à travers des meurtres impossibles, ou bien, si pour animer ses héros, il est conduit en mauvaise compagnie, à l'avant-dernière bouteille jusqu'au dernier couplet, voilà nos héros sous la table avec nos héroïnes. Quel dommage que nous ayons perdu le secret de petites histoires amusantes et joviales d'autrefois. Autrefois, c'était le bon temps pour les petites histoires. Le roman 20 volumes sale et mal imprimé, délassement des cuisinières, des crocheteurs et des marquises, eût fait reculer d'horreur les laquais et les femmes de nos duchesses. Un auteur qui se respectait faisait paraître son histoire à distance, en plusieurs parties séparées, quand l'histoire était trop longue. Il fallut 10 ans pour la suite de Gil Blas. Candide était la mesure excellente de ces petits contes. Madame de Pompadour, qui s'y connaissait, aimait les petits livres qu'on lit tout bas, dans le creux de la main, d'un coup d'œil, et qui se cachent sous le pli d'une dentelle quand arrive en bâillant quelque roi importun. Littérairement parlant, je pleure encore Madame la Marquise de Pompadour. Elle a emporté dans sa tombe le secret du joli. Le joli. Était-elle assez jolie? Oh, je ne sais quoi sans définition. Écho, parfum, rayon, un faux brillant et un feu follet. Il arrive, il entre, il se pose, il rit dans la glace, il s'assied à table avec vous, il chante, il minaude, il écrit de petits billets, il aime à la rage les opéras et les belles danseuses. Il s'occupe en minaudant de petites musiques et de petits vers, de petites intrigues, de tout ce qui est mignon, vif, léger, frivole. Ah, vive le joli! C'est le joli qui a taillé les vers à facettes, inventé la poudre à poudrer, les mouches et les balais. Il a fixé les amours au plafond, il a jeté son phare à la joue, il a rubané Voltaire à la marquise du Châtelet, le roi Stanislas à Madame de Boufflers, Dora à Mademoiselle Fannier, Louis XV à la comtesse du Barry. Pauvre petit monstre, il est parti avec Monsieur Voisenon et Monsieur Crébillon fils. Il est parti. On croyait que le beau allait venir à sa place. Il n'est pas venu, et nous autres, nous sommes restés par terre, entre le beau et le joli, à peu près comme l'art dramatique entre les deux théâtres français. Mais en attendant le beau par excellence, qui nous rendra le joli que nous avons perdu? La littérature de l'Empire en vivait avec l'art de M. Desmoustiers, de Luce de Lancival, de M. Andrieux, de M. Jouy, de M. Bouilly et tant d'autres messieurs et tous les autres. Mais que dit Montaigne? L'archer qui outrepasse le but faut comme celui qui ne l'atteint pas. Ces illustres archers, partisans du joli, ont manqué le but en l'outrepassant. À force de courir après le joli, ils sont tombés dans le trop joli, abîme immense dont la littérature de l'Empire ne se relèvera jamais. Quoi qu'il en soit, je regrette le joli, comme les amateurs de Boston ou de Reversy regrettent le Reversy et le Boston. Des jeux plus modernes ont remplacé les jeux de leur enfance, et les jeux qu'on leur fait jouer, ils les jouent mal, ils les jouent en se rebiffant. Pauvres bonnes gens, leur histoire est l'histoire de nos faiseurs du Moyen-Âge ou de nos fabricants de terreurs révolutionnaires. Ils font du Moyen-Âge ou de la terreur avec tant de peine et de péril. Le joli, c'était sitôt fait. Je lisais naguère un joli conte intitulé « Rosette ». Il est gai, vif, amoureux, charmant, ce petit conte. On le dirait écrit avec la plume d'Angola ou des bijoux indiscrets. Laissez-moi vous le redire, et s'il vous plaît, nous laissons parler notre heureux marquis. Oui, c'est un marquis. Toutes les fois qu'il voudra parler. Bien entendu que c'est le héros de mon histoire qui parlera souvent de son propre et privé nom. Il n'y a pas de meilleure entrée en matière que celle de Gil Blas, « Je suis né de parents », etc., etc. Nous voilà donc face à face avec ce joli petit maître écrivant à l'un de ses amis le talon rouge. Et de tout ce qui doit s'en suivre, joli ou beau, je me lave parfaitement les mains avec de la pâte d'amande, de l'eau rose, dans une porcelaine de vieux Sèvres, une dentelle de maline pour essuie-main. Enfin, marquis, j'ai possédé la belle Rosette. Je vous fais remarquer ce commencement classique en ce temps-là, et ce ton leste, et cette expression qui va droit au fait, j'ai possédé. Notre marquis commence positivement comme Desgrieux, comme Saint-Preux, et tant d'autres ont commencé. Mais revenons à cette narration, qui déjà doit vous intéresser. Voici son portrait, marquis, le portrait de Rosette. Elle a de l'esprit, du jugement, de l'imagination, des talents extérieurs, éveillés, des marches légères, bouche petite, grands yeux, belles dents, grâce sur tout le visage. Rosette entend au premier coup d'œil. Elle part à votre appel et vous rend aussitôt votre déclaration. Voilà celle qui fait mon bonheur. Ainsi était faite Rosette au temps que siècle passé. Aujourd'hui, Rosette est pâle, mélancolique et sur elle-même affaissée, un vrai saule pleureur. Rosette, une précieuse, un saule pleureur. Elle n'entend pas le coup d'œil, et ce n'est qu'au bout de 300 pages qu'elle vous rend votre déclaration, si encore elle n'est pas noyée ou pendue dans l'intervalle. Vive la Rosette d'autrefois! Voilà comment ce bonheur me vint, cher marquis. Il y a 8 jours, en allant au palais royal, je vis arriver le président de Mondainville. Il était pimpant à son ordinaire, la tête haute et l'air content. Il s'applaudissait par distraction et se trouvait charmant par habitude. Il badinait avec une boîte d'un nouveau goût, et dans cette boîte, empruntée à son petit Dunkerque, il prenait quelques légères prises de tabac, dont, avec certaines minauderies, il se barbouillait le visage. « Je suis à vous, » me dit-il. Ainsi disant, il court au méridien. Oh, ce dernier trait du président Mondainville est le seul qui puisse s'appliquer au président de cette époque. Régler sa montre au méridien ou au canon du palais royal est une occupation convenable à un magistrat. Mais l'air pimpant, où est-il? Les minauderies, que sont-elles devenues? C'est à peine si nos magistrats de 30 ans osent sourire. Oyo, cependant, le président de Mondainville et son ami le marquis. Mon cher marquis, dit le conseiller, voulez-vous une prise d'Espagne? Oh, c'est un marchand arménien, là-bas, sous les arbres, qui me l'a vendu. « Mais vous voilà beau comme l'amour, on vous prendrait pour lui si vous étiez aussi volage. Votre père est à la campagne, eh bien, divertissons-nous à la ville. Quel désert, ce Paris! Il n'y a pas 10 femmes. Aussi bien celles qui veulent se faire examiner ont des yeux à choisir. » Ainsi parle le grave conseiller à notre marquis. « Touchez là, ajoute le conseiller, je vous fais dîner avec 3 jolies filles. » Nous serons 5, le plaisir sera le 6e. Il sera de la partie puisque vous en êtes. J'ai renvoyé mon équipage et la verdure doit me ramener un carrosse de louage, en polisson. Ainsi dit le président. Il est, comme vous voyez, un bon vivant et prêt à tout. Improvisant le plaisir comme Antony improvise un meurtre. Et puis, comme on disait dans ce temps-là, il a du génie et de l'honneur, mais il tient furieusement au plaisir. Il mène une belle vie, au bal toute la nuit, à 7 heures du matin au palais. Il n'est ni pédant en partie fine, ni dissipé à la chambre. Charmant à une toilette, intègre sur les fleurs de lys. Sa main joue avec les roses de Vénus et tient toujours en équilibre la balance de Thémis. Je crois sans vanité que j'attrape assez bien le style précieux. À la proposition du président, amusons-nous à demain les affaires sérieuses. Le marquis dit oui tout aussitôt. Et voilà les deux amis qui sortent gravement du palais royal. Ils traversent la place entre Charybde et Scylla, garnis de vestales parées comme des mystères. Ils passent devant le café de la Régence, veuve de la dame, ornement du comptoir dont la fuite a tant excité la verve des chansonniers. Au coin de la rue, ils trouvent la verdure sans livrée et son carrosse sans armoirie. « Tout est prêt, » dit la verdure. « Mademoiselle Lorette et Mademoiselle Argentine vous attendent. Mademoiselle Rosette est indisposée et vous fait ses excuses. »« Quel mal, Rosette indisposée. » Et voilà notre marquis tout pensif. Cependant, il monte en carrosse. Le marquis est muet. Le président ne déparle pas. « Voyez, dit-il, ce grand flamand qui passe, il est au-dessus et au-dessous de nous, de toute la tête. Voyez marcher, à pas compter, le sage Damis. À le voir, on le dirait ingénieux et spirituel. Sa physionomie est menteuse, oui, da. Cet homme est bon tout au plus à être son propre portrait. » En passant dans la rue Saint-Honoré devant la boutique du bijoutier, « Où le nose, dit-il, regardez la porte des mers. Il me vend toujours 1000 bagatelles malgré moi. Combien de colis fichés avons-nous échangé pour des lingots d'or ?» Ainsi, médisant et se vantant de leur ruine, ils arrivent à la porte de Lorette et d'Argentine. Bien que ces dames ne ressemblent guère à nos héroïnes de romans, dont chaque mouvement est une mélodie, elles sont cependant dignes d'intérêt et d'attention. Argentine et Lorette montent en carrosse, on lève les stores, et puis fouette cocher jusqu'à la glacière. À la glacière est située la petite maison du président. L'extérieur annonce une cabane. Entrez ou l'intérieur vous dédommage. Au dehors, c'est la forge de Vulcain, mais au-dedans, c'est le palais de Vénus. Ces petites maisons-là sont d'invention diabolique. À la porte est assis le mystère, le goût les construit et l'élégance en meuble les cabinets. On ne rencontre en cet audit charmant que le simple nécessaire, un nécessaire plus délicieux que tous les superflus. Fille de la sagesse et du sens commun, la glacière est une fournaise et le secret qui fait sentinelle ne laisse entrer que le plaisir. Alors on dîne. Et il n'est rien qui se compare au menu de ce dîner, fait par un cuisinier qui vient de Versailles. Imaginez toutes les recherches succulentes. Bon repas, aimable causerie et gaieté. Dans l'intervalle qui sépare la bisque du relevé de potage, on parle Orient de Dardanus. En ce temps-là, parmi les sujets sérieux de conversation, l'opéra tenait la première place et la cour n'avait que le second rang. Au beau milieu de la causerie, on présente aux convives 2 entrées. La dispute est calmée, tout le monde est remis dans son assiette et sur son assiette. En notre sotte année de 1832, les romanciers sont prodigues de portraits, surtout de portraits de femmes. Ils vont vous faire, oh et très facilement, 25 pages sur une brune et 40 sur une blonde. Autrefois, ces belles images se faisaient en 2 traits, d'un crayon net et vif. Déjà, vous avez eu celui de Rosette, en 3 mots. Écoutez ceux de Lorette et l'Argentine. Ah, les belles figures qui vous suivent et vous provoquent, les doux rires, les lèvres vermeilles. Dites-moi, ami, si M. Henri de la Touche lui-même a fait quelque chose de mieux. Nauraite est jeune encore, un peu moins qu'elle ne le pense. Admirez cette grande fille à l'œil noir, à la jambe grêle, une danseuse, et qui pourrait se faire un voile de ses épais cheveux noirs. L'Argentine est une maman, la main blanche et potelée. Un sourire excitant, l'œil fermé à demi, grand pied bien fait et nez retroussé. Toutes deux belles personnes et chantant le couplet à ravir. On chantait beaucoup en ce temps-là. Quant à l'ajustement de ces dames, le voici tel que je le sais. Argentine était en robe détroussée de noir citron, et Laurette était parée, elle avait du rouge. Toutes les deux étaient ajustées par la Duchapt. Tout à coup, à la fin du repas, le vin de champagne éclatant de sa riante écume au bruit des bouchons, légère et riante, entre en riant la belle et vive Rosette. Oh, bonheur, la voilà, c'est elle. Après un salut de joie, elle fait le tour de la table et tend aux convives son front charmant. Est-elle assez jolie, assez piquante et provocante, avec un petit bruit des lèvres, un appel irrésistible? Ah, Rosette! Rosette est sans panier, avec le plus beau linge du monde, une chaussure fine et le plus petit pied qui se puisse voir. Le dessert arrive, on boit, on casse les bouteilles et les verres, les assiettes, on jette un peu les meubles par les fenêtres, et ces dames s'amusent comme des marquises. C'était la mode au départ des officiers pour l'armée. On cassait les porcelaines, on ébréchait les miroirs, on brisait le dernier verre où pétillait la santé de ces folles amours. Cela s'appelait faire carillon. Quand tout est bu et tout brisé, on se promène à travers le jardin. Après la promenade, on fête un médiateur. Le président joue avec un bonheur sans égal. Rosette est outrée et répète à qui veut l'entendre qu'elle est en péché mortel parce qu'elle ne voit pas un as noir. Ces dames trichent tant qu'elles peuvent, puis la nuit venue, on monte en carrosse et chacune et chacun rentre ou chez elle ou chez soi. Voilà, je l'espère, un petit roman bien préparé. Moi, j'aime assez ce joli roman, et je continue. Oh, il ne va pas plus loin que le « comme il faut » le plus strict. Et qui que vous soyez, voire M. Paul de Kock, je vous mets au défi de me citer un conte humoristique, fantastique ou romantique plus décent que celui-là. Le lendemain de cette fête carillonnée, le marquis n'a rien de plus pressé que d'envoyer savoir des nouvelles de Rosette. À midi, étalé dans son carrosse, il se fait conduire au Luxembourg. Au sortir du jardin, il monte en grand mystère dans une chaise à porteurs. Il arrive ainsi chez Rosette. Elle est à sa fenêtre, qui le regarde en souriant d'en haut. Il entre, ô Dieu et déesse. Rosette est coiffée en négligé. Elle est vêtue d'un désespoir couleur de feu. Elle porte un corset de satin blanc, une robe brodée des Indes. Le second mot de Rosette est celui-ci. « Dînez-vous avec moi, marquis ?» Le marquis, le matin, il a fait des armes chez Dumouchel, accepte hardiment le dîner de Rosette. Ah, ce vieux siècle avait sur le nôtre un grand avantage. Il était grand mangeur et grand buveur, et le reste. Après le dîner, il faut bien que Rosette fasse un bout de toilette. Et le marquis se souvient qu'il n'a pas encore salué son père. C'est un devoir auquel, même en l'honneur de Rosette, il ne voudrait pas manquer. Et le voilà qui se rend à son devoir. Ici, c'est une moralité de cette histoire, on vous fait remarquer la toute-puissance paternelle très à propos à cette époque. Les héros des livres des histoires de ces temps ont toujours leurs parents présents à leurs pensées. Ils s'inclinent donc, tremblants et respectueux, devant l'autorité paternelle. Héloïse est renversée à terre par un coup de poing de son père. Desgrieux est à genoux devant son père, implorant vainement sa pitié. Faublas est emprisonné par son père. Et que dites-vous du comte de Mirabeau, expiant ses amours dans le donjon de Vincennes? L'autorité paternelle est partout dans ses livres. Vous ne me citerez pas un roman moderne, à 3 ans de date, où le héros parle de son père ou de sa mère. Le seul Antony, par la très bonne raison qu'Antony est un bâtard. Ne soyez donc pas si fier, roman moderne, de votre moralité. Bon, je reviens à mon marquis. Le marquis va chez son père. Il fait sa cour, il lui raconte une foule d'anecdotes, il l'amuse. À peine s'il se donne le temps d'envoyer à Rosette une navette d'or et de lui demander à souper pour le soir. Rosette, qui aime à faire des nœuds, accepte la navette d'or en échange du souper. 9 heures sonnées, le marquis donne le bonsoir à son père en lui baisant la main, puis il se fait conduire en voiture derrière l'hôtel de Soubise. Derrière l'hôtel, il prend un fiacre qui fait quelques difficultés pour marcher. Ce fiacre est marqué au numéro 71 et à la lettre X. Il y avait alors en France une espèce de jeu fort répandu qui rendait souvent un fiacre assez dangereux pour celui qui avait besoin de l'incognito. Des oisifs arrêtés à la porte des cafés jouaient à père ou non. Et sur le chiffre des premiers fiacres qui passaient, cet accident, si commun, arriva justement au fiacre du marquis. Le marquis arrive, entre chez Rosette, où il a fait porter sa robe de chambre de taffetas. La robe de Rosette de taffetas bleu flottait au souffle des zéphyrs. Pendant que Rosette, en mille grâces, se montre joue avec son chat, boit des liqueurs à petites gorgées, et se livre à toutes les folâtreries de sa jeunesse. Hélas, un grand danger la menace. Il y va de sa liberté, de sa vie. Le bruit était au marais d'une méchante affaire arrivée à un jeune homme de famille qui, dans une maison de jeu, et ce même jour, le père du marquis, apprenant que son fils, qui s'est retiré de si bonne heure, a pris, comme on dit, la clé des champs, s'inquiète et s'alarme. « Où donc est mon fils, le marquis ?» Un ami de la maison, nouvelliste de profession, lui apprend qu'on a vu passer, devant tel café, un fiacre au numéro 71X, dans lequel était le marquis. Sur le champ, le père appelle un commissaire de police. Le commissaire, qui sait son monde et qu'il a affaire à un homme de la cour, arrive sur le champ. On cherche le fiacre 71, on le trouve, on le saisit, on l'interroge et le pauvre diable se croit perdu. Après bien des questions, le cocher sait enfin ce qu'on lui demande. Il monte sur son siège et il conduit droit chez Rosette, le commissaire et le père irrité. Alors Rosette, à ce bruit du guet entrant chez elle, envahissant ses chambres dorées, la pauvre enfant, sans défense et sans appui, tremble et demande à ses tristes envahisseurs ce qu'on veut d'elle. Le père du marquis lui répond que sa destination est marquée sur un ordre qu'on lui fait voir. La douleur accable Rosette, elle se roule aux pieds de son bourreau à demi nue. Elle attendrirait des rochers, mais le vieux duc est inflexible. Rosette, au désespoir, demande, hélas, mais en vain, du secours à son ami le marquis. Le marquis n'obéit qu'à son père. Ils se soumettent tous les deux au plus grand pouvoir de cette époque, l'amoureux à son père et l'infortunée Rosette à la lettre de cachet. Je vous prie une fois pour toutes, vous qui faites des romans, de regretter ce moyen terrible, expéditif, la lettre du petit cachet du roi, comme on disait alors. La perte des lettres de cachet nous a ruinés, nous autres romanciers. Le peuple, entrant dans la Bastille, a chassé la folle du logis, de son logis le plus commode. Savez-vous, je vous prie, dans les tragédies grecques, un dieu, quel qu'il soit, qui intervienne et plus à propos que le lieutenant criminel dans les romans du XVIIIe siècle? Manon Lescaut, ce grand chef-d'œuvre du commence, il en faut bien convenir, la Virginie de Bernardin de Saint-Pierre et la Thalia de M. de Chateaubriand, Manon Lescaut, protégée et défendue par la liberté des lois modernes, Manon Lescaut, avec un avocat dévoué qui l'arrache à ses violences de la force, y perdrait ce qui la rend si touchante, à savoir le martyr. Et le Bon La Fontaine, à cette suppression de l'absolu, perdrait ses plus beaux vers. Elle s'en va peupler l'Amérique d'amour. Voilà donc Rosette en prison, parce qu'elle a donné à souper à un beau jeune homme. Ah, pauvre Manon, pauvre Rosette, pauvres jolies et tendres femmes hors la loi, qui obéissiez si facilement, si simplement au commissaire. Allez rejoindre à son couvent la maîtresse de Mirabeau. À la Bastille, ordinairement, se passe la deuxième et dernière partie des romans du joli siècle. Le boudoir et l'antichambre de la Bastille. Au premier chapitre, le héros ou l'héroïne sont occupés uniquement à se faire mettre en prison. Je ne ferai donc aucun changement à la marche ordinaire, et bien plus, fidèle à l'usage, nous allons employer toutes nos ressources à tirer Rosette de cette malheureuse position. Le marquis, soumis à son père, est rentré à l'hôtel tout pensif. Ne pouvant se servir de la force, il emploie la ruse à sauver sa chère maîtresse. Dans toutes les grandes maisons de ce temps-là, il y avait un directeur en titre, un abbé maître de la maison, qui servait d'intermédiaire entre le fils et le père, quand ce dernier était irrité. Assez souvent, cet abbé s'appelle Ledoux. Il est gourmand, dormeur, entêté, vaniteux, accessible à la pitié. Pour peu qu'on le flatte, on est sûr de lui. Le premier soin du marquis est de faire appeler M. Ledoux. Il fait entrer M. Ledoux dans sa bibliothèque. Il lui montre en détail ses livres défendus, et dans la chambre à coucher, il lui fait admirer ses miniatures et ses gravures. Il en a pour plus de 200 louis. Puis il lui fait accepter plusieurs pots de confiture dont M. Ledoux est très friand. À la fin, quand il voit que l'abbé est tout disposé à le servir, il lui parle de ses amours et de Rosette. Il la présente au sensible abbé telle qu'elle était cette nuit-là, bondissante, échevelée, agenouillée et les mains jointes. Et voilà M. Ledoux qui s'en va, promettant de s'intéresser à Rosette, et s'y intéressant déjà au fond de son faible cœur. Hélas, hélas, pendant ce temps, que fait Rosette? La pauvre fille est enfermée à Sainte-Pélagie, par ordre du roi et pour son bien. Sainte-Pélagie, un port de salut où les bons exemples ne lui manqueront pas. À peine arrivées, toutes les religieuses viennent contempler la belle Rosette. On plaint Rosette, elle pleure. Elle est encore à demi-nue, en plein chagrin, ses beaux yeux baignés de larmes, la coiffure chiffonnée. Elle est si triste. Un beau jour, la Verdure, le valet de chambre, cherche Rosette. Il apprend en quel lieu funeste elle est enfermée, et sous les habits d'une femme, il entre au couvent. Il voit la jeune captive, il lui donne un louis de la part du marquis, et s'en revient porteur de bonnes nouvelles. Digne la Verdure, aujourd'hui le confident est encore un moyen qui nous manque. Ni laquais ni soubrette, ah, mais comment nouer son drame? Mais comment remplir, sans le secours de ces acteurs secondaires, les intervalles qui laissent entre les diverses parties la comédie la mieux faite? Autrefois, le laquais était un personnage indispensable, Il appartenait au drame, à l'action. Aujourd'hui, c'est à peine si, dans un roman, l'on se permet un commissionnaire qui porte une lettre d'un quartier à l'autre. Nous dansons sur un fil d'archel sans balancier et les deux pieds dans un palier. Dans la lettre de Rosette à son marquis, il y a nécessairement une phrase ainsi conçue. Faut-il que je sois malheureuse pour avoir adoré un homme qui mérite hélas toutes mes admirations? Adieu, je vais pleurer mon malheur, je vous aimerai éternellement. Rosette. Que si ce ton de passion subite vous étonne en cette aimable fillette si réservée, si polie avec son marquis? C'était un des avantages de la persécution et des cachots appliqués à l'amour. Ils ennoblissaient sa passion la plus vulgaire. Ils faisaient d'une malheureuse fille un héros, un martyr. Ils la mettaient tout d'un coup au niveau de son amant, quel qu'il fût. Ils lui donnaient le droit de lui parler de son amour et d'un amour éternel encore. Tel qu'il n'eût pas osé regarder son amant en face, une fois en prison, lui parler d'égal à égal. J'imagine encore une fois que ces pauvres filles ont beaucoup perdu en considération, en amour, en bonheur même, à la suppression des lettres de cachet. Quand le marquis a découvert le couvent, la prison de Rosette, il invite un matin l'abbé Ledoux à prendre avec lui le chocolat. Pour plaire à monsieur l'abbé, le jeune marquis lui lira, s'il le faut, les nouvelles ecclésiastiques, pleines d'injures, contre les évêques constitutionnaires. Le déjeuner fini, le marquis conduit l'abbé chez M. le président Mondonville. Montés en voiture, M. l'abbé prie instamment M. le marquis de ne pas aller à toute bride dans la rue, ajoutant que les lois ecclésiastiques lui ordonnent à lui, l'abbé, d'aller au pas. Le marquis enrage, et cependant il se résigne à ne pas brûler le pavé, pendant que plusieurs seigneurs, traînés par de mauvais chevaux, se font un honneur infini par leur course rapide. En passant devant l'opéra, M. Ledoux fait le signe de la croix. Un ecclésiastique ne manquait jamais à cette formalité. C'était le bon temps de l'opéra. À la fin, ils arrivent chez le président Mondonville. Le président les reçoit d'un air grave. Après avoir forcé M. Ledoux de se rafraîchir, et il demande à ces messieurs en quoi il peut leur être utile. Alors le chevalier parle de Rosette. Il se plaint de la lettre de cachet. Il atteste M. Ledoux en témoignage de ses bonnes intentions. Il a beau dire à ce discours pathétique, le président reste impassible. « Oh, le cas est grave, oh, je n'y peux rien !» Dieu et ma conscience me défendent de me mêler de cette affaire. Ne m'en parlez plus, mon cher marquis. Il est vrai, ajoute-t-il négligemment, que cette fille-là pense bien sur les affaires du temps. Et même, elle a eu des convulsions. À ce mot, fille qui pense bien et convulsion, l'abbé prête une oreille attentive. À ses yeux, Rosette a pris tout à coup l'autorité d'une quasi-sainte. À l'heure où nous voilà, les controverses religieuses tenaient la place des controverses politiques. Chaque faction avait ses saints et ses martyrs. L'Église était divisée en deux camps. L'abbé Ledoux, en sa qualité de convulsionnaire, s'intéresse à Rosette, le janséniste du parti anticonstitutionnaire, et tout va bien. Lorsqu'il s'agit du soulagement de leurs frères, tous les gens du parti sont très ardents. Monsieur l'abbé Ledoux, qui veut protéger religieusement Rosette, s'en va chez l'une de ses pénitentes, une dame de la sous-ferme, dévote de 50 ans, qui a eu l'orgueil d'abandonner le rouge et les mouches et s'est mise sous la direction de notre abbé. Cette dame a suivi très assidûment les sermons du père Regnault, qui a choisi tout exprès une petite église à l'extrémité de la ville afin d'y faire foule. C'est à cet inspiré que s'adresse l'abbé Ledoux pour délivrer Rosette. Il plaide, il persuade, et aussitôt la troupe entière des bigots et bigotes se met en campagne. Monsieur Ledoux obtient par ses amis ordre de monsieur le lieutenant de police à la supérieure d'ouvrir à monsieur l'abbé la cellule de Rosette. Le soir, le marquis, impatient d'apprendre enfin des nouvelles certaines de la pauvre fille, va faire un médiateur chez mademoiselle de l'Écluse, la femme soi-disant d'un officier qui donne à jouer pour l'amusement des autres et pour son profit personnel. Mademoiselle de l'Écluse tient une de ces maisons décentes où il ne se passe rien, mais la maison est commode. On y voit aisément de jolies femmes, sans scandale et sans avoir la réputation de les chercher. Le marquis imagine alors de se déguiser et d'aller voir Rosette. Mademoiselle de l'Écluse, dont le frère est abbé, lui prête un des habits de son frère, soutane, manteau long, rabat et le reste de l'ajustement. La perruque était modeste et arrangée comme par les mains de la régularité. La calotte était très luisante et brillait avec affectation. Enfin, tout l'extérieur du marquis était uni, recherché et convenable à la représentation d'un directeur, jeune à la vérité, mais qui n'en est que plus chéri des bonnes âmes. Dans cet équipage, notre ami monte en chaise et il se rend à Sainte-Pélagie. À Sainte-Pélagie, on le reçoit comme un docteur en Sorbonne. Toutes les portes lui sont ouvertes. Il voit Rosette, il parle à Rosette, il la console. Il entre aussi dans la chambre de la supérieure, qui veut se confesser à lui. Quelle chambre, au ciel, cette chambre monastique! Tous les récits et les descriptions de monastères et d'abbayes dans la reine de Navarre, le XVIIIe siècle les a encore, il est vrai, enjolivés. Le marquis trouve à la baisse à sa toilette. Les dévotes en ont une moins brillante que les coquettes du monde, mais plus choisie et mieux composée. Les odeurs les plus nouvelles répandaient un parfum suave et léger dans cette chambre où respirait la sensualité d'une dévote. Que cette supérieure en eût remontré, même à Rosette. Elle avait pour cellule un boudoir, pour lit un sofa. Son linge de nuit, garni d'une dentelle d'Angleterre, était travaillé avec goût. Sa robe de perse blanche, son jupon de satin violet, ses bas fins ainsi que sa chaussure, enfin tout son déshabillé, accompagnaient à merveille sa taille et sa figure. Ses yeux étaient tendres et sa bouche était rose. En ce beau lieu, sanctifié par les saintes extases, l'aimable abbesse avait réuni la prière et la volupté, la méditation et le plaisir. Bon, ce bastiche enfin me lasse. Plus de copies et de plagiat, c'est le mot. S'il vous plaît, je vous raconterai tout simplement la fin de l'histoire de Rosette. Rosette a fini par être une honnête femme, et c'était, j'imagine, une bonne fin dont Rosette était digne. Elle était intelligente autant que jolie, et après avoir suivi la loi commune et permis au marquis de se ruiner avec elle et pour elle, elle l'avait aimé toute une heure. Alliance heureuse entre les belles et les seigneurs, les fils des dieux et les filles de la pauvreté. Deux mondes bien différents et qui pourtant se reconnaissaient et se comprenaient d'un coup d'œil. Ils faisaient ensemble une alliance de quelques années. Elle durait autant qu'il y avait richesse d'une part et de l'autre jeunesse et beauté. Après quoi, si la dernière bougie était éteinte et la dernière bouteille de champagne était vidée, adieu Glycère, adieu Rosette. Ce pacte de plaisir et d'amour se rompait à l'amiable et chacun des deux mondes rentrait dans ses limites naturelles. Le jeune seigneur redorait son écusson et prenait en justice à la cour la place de son père, et la jolie fille dépouillait ses habits de princesse et laissant sous le seuil de son autel d'emprunt les grâces folâtres de sa jeunesse, elle redevenait une simple bourgeoise, se mariait à quelque honnête commis au Gabelle, à quelque honnête procureur au Châtelet, puis tout rentrait dans l'ordre accoutumé, si bien que 2 ans plus tard, à voir le grand seigneur à la cour ou le magistrat sur son siège, on n'eût pas dit que c'était le beau clitandre, et 10 ans après, à voir la femme de l'officier au Gabelle, réservée, sage, économe et janséniste effrénée, élevant sa fille dans la plus austère vertu, vous n'auriez jamais dit que c'était la Cydalise, aux yeux charmants, que vous aviez connue en falbala et sans mouchoir, l'âme, l'esprit, le cœur, la tête et la gorge au vent. Donc Rosette, après bien des larmes et bien des intrigues, et des transports de haine et d'amour, quittait la fatale prison. Elle est rendue enfin, grâce à l'abbé, à ses fêtes, à son luxe, à tout ce qui faisait sa vie à Paris. On l'a déjà assez dit. La voilà qui se marie. Elle trouve un mari fidèle, honnête et bon, travailleur, un héros qui est entré un des 100 000 premiers à la Bastille. Notre marquis, de son côté, pour obéir à son père, s'est marié après avoir doté Rosette. Il a épousé une jeune et belle fille, une normande, une blonde presque anglaise, mademoiselle de Lurzaille, qui lui apportait 20 000 livres de rente en fonds de terre. Le père du marquis, heureux de voir son fils devenu plus grave, l'a grondé beaucoup moins depuis le jour de son mariage. Cependant, il le grondait encore la veille de sa mort. Et bien voilà toute ma jolie histoire. Hélas, qui nous rendra ces temps heureux les belles histoires, ces petits boudoirs pleins de lumière et d'ombre, ces vastes salons tout dorés, ces soupers de la nuit, ces conversations du matin, ces abbesses coquettes, ces abbés charmants, ces conseillers petits maîtres, ces jolies femmes abandonnées, rieuses, si patientes dans le chagrin? Qui nous rendra la Bastille, Saint-Lazare et monsieur le lieutenant criminel? Qui nous rendra les comtes de Voisenon? D'ailleurs, si vous êtes d'une morale austère à ce point que vous ne puissiez pardonner à la folle jeunesse ses heures d'emportement et de plaisir, j'ai un second dénouement à mon histoire, et vous pardonnerez à Rosette sa légèreté et au marquis son amour. Cette société corrompue a payé, vous le savez, la part de sa corruption. Ces jolis petits romans ont été suivis d'une terrible histoire. C'était un singulier successeur à Voisenon, M. de Robespierre. Un matin, notre marquis, au plus fort de sa sagesse, honoré pour son courage et pour sa bonté, fut amené devant le tribunal révolutionnaire. Innocent, il fut condamné, il fut exécuté le même jour. Le même jour, Rosette, estimable bourgeoise de la ville de Paris, excellente mère, estimée de ses voisins, l'honneur de son mari, comme elle avait sauvé son curé proscrit, fut amenée devant le tribunal révolutionnaire et condamnée à mort. Ils moururent tous les deux le même jour et traînés sur la même charrette dans un dernier sourire. Il y avait dans ce sourire une estime, une pitié, un tendre et doux souvenir. Expiation. Expiation de leur bonheur, de leurs amours. Pauvre Rosette et pauvre marquis. Oh, je ne suis pas sanguinaire, et pourtant, si vous me dites ils sont morts innocents, je vous dirai, ils ne sont morts innocents ni l'un ni l'autre. Ce supplice injuste expiait les scandales de leur jeunesse. Ils avaient abusé, oh, lui de sa fortune et de sa noblesse, elle de sa jeunesse et de sa beauté. Ils ont poussé de toute leur force à la décomposition de cette société dont la chute les a entraînés. Ils sont coupables. Les ruines amoncelées par eux retombent sur leur tête. Et voilà tout. Ainsi, jeunes gens de notre époque, je me rétracte. Faites vos romans comme vous l'entendrez. Vos romans sont insipides. C'est bon signe pour la société dont vous êtes les historiens. Vos héros sont plats et fades. Tant mieux pour eux, tant mieux pour vous. C'est que nous sommes moins pervertis. Vos femmes sont sans intérêt, c'est leur gloire. Elles sont sans intérêt, donc elles sont sans vice et sans passion. Vous-même, vous écrivez mal, au fait, vous n'avez rien à dire. Ah, oh, mais tant mieux encore, nous serons plus vite délivrés de vous. J'ai acheté sur les quais poudreux, à travers les vieux meubles et les vieux livres, le portrait de Rosette, au pastel, par un élève de Latour. Elle est armée à la légère, un teint de brune, éclairé d'un rayon d'avril. Deux beaux yeux, pleins de langueur, le plus joli nez du monde, indiquant 100 000 choses, et tourné du côté de la friandise. Une grâce, un enjouement, une jeunesse élégante et badine, la rose au corset, la perle aux dents, et la neige au sein.